7:04.
BBC's Brian Hanrahan.
Buenos días, comienzan las comparecencias.
Thanks so much for that report.
Ailleurs dans le monde, le petit journal de l'international avec donc Michaël Thébault. Bonsoir Michaël.
Bonsoir Nicolas.
Et pour commencer, on reprend donc cette route des réfugiés que France Inter vous a fait suivre jour après jour cette semaine, depuis le sud de la Macédoine jusqu'en Suède.
Et une route empruntée par des milliers de candidats à l'exil. 5 pays traversés en moins d'une semaine. La Hongrie, l'Autriche, l'Allemagne, le Danemark et enfin la Suède. La Suède, où vous vous trouvez, Philippe Randé, en direct de Malmö. Bonsoir.
Philippe. Bonsoir.
Bonsoir. Alors cette route, hein, vous l'avez suivie du départ jusqu'au terminus. Et c'est donc en Hongrie qu'a débuté votre périple.
Oui, Michael, plus exactement à la frontière entre la Hongrie et l'Autriche. Vous savez que l'État hongrois est avec Viktor Orban un des plus stricts en ce qui concerne les migrants. Hein. Clôture au sud du pays, contrôle de police et des réfugiés qui ont la semaine dernière passé plusieurs jours bloqués dans la gare de Budapest. Finalement, ces milliers de migrants ont pour la plupart réussi à quitter la capitale, direction l'Autriche et le poste frontière de Nikolsdorf. C'est là que nous partons tout de suite retrouver Mohamed. Mohamed, un Afghan que nous avons croisé dimanche dernier en train de marcher perdu à travers champs avec sa fille dans les bras.
Est-ce qu'on est en Autriche là ou pas?
Oh non.
Oh mon Dieu, on est content. On remercie tout le monde. On a marché des kilomètres. J'ai quitté l'Afghanistan il y a un mois quand les talibans ont brûlé ma maison. Et il y a une chose que je voudrais dire, c'est que la police hongroise a été la pire. Je les ai vus lâcher les chiens sur les femmes, les enfants, et un chien m'a mordu le genou dans la jambe.
Et finalement, Mohamed a réussi à monter dans un train direction Vienne, direction l'Allemagne.
Et un train, bien sûr, dans lequel vous êtes vous aussi monté, Philippe.
Oui, Vienne-Munich, 4h30 de voyage en compagnie, cette fois de Anas et Mohamed, deux jeunes Syriens qui ont accepté que je m'installe à côté d'eux. Ils étaient tellement fatigués, notamment par la traversée de la Hongrie, qu'ils ont passé la majorité du voyage à dormir. Mais le moment le plus émouvant pour eux a été sans aucun doute la minute précise où ils sont descendus du train, applaudis par des dizaines de personnes dans la gare de Munich.
Je ne sais pas ce qui se passe, c'est juste ouvert pour nous, on a des fans, c'est un super sentiment, ce sont des gens qui nous respectent.
Et d'après les dernières nouvelles que nous ont données Mohamed et Anas, ils sont dans un centre d'accueil à Augsbourg, au nord-ouest de Munich. Des centres d'accueil qui ont de plus en plus de mal à faire face à la demande. Un chiffre, Michael, un seul. Berlin s'attend à ce que 40 000 réfugiés entrent encore en Allemagne ce week-end.
Et ça ne s'arrête pas là hein, pour tout le monde, Philippe, puisque de nombreux migrants veulent aller encore plus au nord jusqu'en Suède. Et entre l'Allemagne et la Suède, eh bien, il y a le Danemark.
Et après les applaudissements en gare de Munich, le changement a été radical, on va le dire comme ça, lorsque mercredi après-midi, nous sommes arrivés à Copenhague. La compagnie de train danoise venait d'interrompre les liaisons avec l'Allemagne, la gare était quasiment vide et les migrants, eux, vivent cachés. C'est le cas de Edaï que nous avons rencontré pieds nus sur le bord d'une route de campagne danoise.
Je vais en Suède. Le Danemark, c'est pas bon pour nous, les Afghans. Et je ne comprends pas pourquoi vous ne nous aidez pas. Le gouvernement nous a forcés à prendre nos empreintes. Il renvoie des réfugiés en Allemagne, ferme leurs frontières. Si on reste ici, on n'aura pas d'asile. J'ai besoin d'aide. J'ai pas d'argent. J'ai quitté le centre d'accueil. Je ne sais pas où aller. Je veux aller en Suède. Mon cousin vit en Suède.
Voilà le royaume des migrants, la Suède, qui paraît si compliqué à atteindre pour tous ces hommes et ces femmes, et qui en même temps très proche, puisque 40 km seulement séparent Copenhague de Malmö.
Et la Suède, hein, le terminus donc pour vous et pour des dizaines de milliers de réfugiés.
Oui, c'est le pays qui accueille proportionnellement le plus de demandeurs d'asile. En 2014, en Suède, 60 000 demandes ont été acceptées sur 80 000. Et le gouvernement suédois vient d'annoncer une rallonge budgétaire d'1,5 milliard d'euros pour aider à l'intégration de ces réfugiés. À l'heure où je vous parle, je me trouve à 100 mètres à peine de la gare de Malmö. Et depuis deux jours, le flot des migrants qui arrivent est quasiment ininterrompu. Parmi eux, Hamza.
C'est le meilleur moment de ma vie. Je suis très très heureux. Quand on est passé en train au-dessus de l'eau pour quitter le Danemark, c'était comme une nouvelle naissance. Mon voyage a été très long et à chaque frontière, j'avais tellement peur que j'avais envie de faire demi-tour. Mais on est arrivé en Suède sans donner nos empreintes avant. On va pouvoir rester, c'est super. On nous donne à manger, à boire, une carte SIM gratuite, on nous donne tout. Je ne sais pas quoi dire. J'ai envie de pleurer.
I want to cry. Et Hamza, comme tous les Syriens qui demandent l'asile en Suède, obtiendra après un entretien dans quelques mois un permis de séjour permanent. D'ici là, il sera nourri, logé, il aura le droit de travailler. Un véritable Eldorado, donc, après plusieurs semaines de voyage et une dizaine de pays traversés.
C'est vraiment Eldorado, c'est le terme. Philippe Randé, en direct de Malmö, en Suède, assisté à la technique de Laurent Maquetti. Merci beaucoup à tous les deux.
Et le sort des réfugiés une fois arrivés en Europe, on en parle encore, Michael, vu d'Allemagne.
Et quatrième et dernier coup de projecteur sur ces initiatives citoyennes qui fleurissent là aussi un peu partout outre-Rhin. Et c'est toujours avec vous, Cyril Sauvageau, en direct de Berlin. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors honneur aujourd'hui, Cyril, aux musiciens, avec d'abord cette belle idée à Brême, dans le nord de l'Allemagne. Un musicien classique syrien a monté le Syrian Expat Orchestra.
Et oui, comme son nom l'indique, cet orchestre, il a pour vocation de réunir des musiciens syriens, musiciens professionnels, exilés en Allemagne ou ailleurs en Europe. Le projet est né à l'initiative de Raed Jazbeh, un contrebassiste syrien qui a fui sa ville d'Alep en 2013. Il a reçu le soutien de plusieurs associations et de l'école de musique de Brême pour fonder donc le CEPO, Syrian Expat Philharmonic Orchestra. La formation va donner son premier concert le 22 septembre à Brême, sous la direction d'un chef de Hambourg, Martin Lenz, avec le renfort de musiciens allemands, au programme des œuvres de Schubert, Tchaïkovski, mais aussi de plusieurs compositeurs arabes, le tout avec un mélange d'instruments classiques et orientaux.
Et on continue en musique, Cyril, mais alors là, on change radicalement de style, oui, avec le numéro 1 des charts, aujourd'hui, ce vendredi en Allemagne, c'est un tube anti-nazi ressurgi des années 90.
Oui, il y a un revival inattendu pour ce morceau culte du groupe punk Die Ärzte. Le titre date de 1993, il s'appelle Schrei nach Liebe. Du bon vieux punk à l'ancienne, c'est toujours le plus efficace pour cracher sur les néo-nazis. Le morceau sert de bande-son à une campagne antiraciste lancée sur les réseaux sociaux par un prof de Osnabrück. C'était sa réaction spontanée face à la flambée de violence contre les centres pour réfugiés. Le titre a battu le record de téléchargement en une semaine. Il est donc ressorti en single et le groupe Die Ärzte a promis de verser l'intégralité des royalties à l'association Pro-Asile qui aide les réfugiés.
Du bist wirklich saudum, darum geht's dir gut. Hass ist deine Attitüde.
Voilà, Die Ärzte, donc Die Ärzte, Cyril Sauvageau, j'ai dit quoi ? Cyril Sauvageau en direct de Berlin, merci.
Et puis c'était il y a près de 4 heures maintenant à New York, 8h46 heure locale, 14h46 heure française. Minute de silence pour commémorer le 14e anniversaire des attentats du 11 septembre 2001, Michael.
8h46, l'heure à laquelle le premier avion de ligne détourné a percuté l'une des deux tours du World Trade Center et c'est aujourd'hui, 14 ans après, que le New York Times a obtenu, au nom de la liberté de la presse, la déclassification de mails jusqu'ici étiquetés secret défense. Des mails échangés entre le président George Bush et son équipe avant, pendant et après les attentats. Et on peut donc les consulter depuis ce matin sur le site du New York Times. Frédéric Carbone, bonsoir.
Oui, bonsoir.
En direct de Washington. Alors évidemment, vous avez lu pour nous tous ces échanges, rien de fondamentalement nouveau, mais on apprend tout de même pas mal de choses sur l'ambiance qui pouvait régner.
C'est-à-dire que ces emails, ils donnent une idée de la sidération et surtout peut-être de ce huis clos complètement oppressant qui a été la réalité de la Maison-Blanche ce jour-là. Tout commence comme une journée normale, 5h37 du matin, Karl Rove, l'éminence grise de George Bush, demande sa revue de presse quotidienne. À 8h42, l'attaché de presse reçoit une demande d'interview d'un journaliste. Et 10 minutes après, le premier avion a percuté une tour, réflexe à la Maison-Blanche, branché CNN, email envoyé à tout le staff. Ensuite, ce sont tous les rendez-vous à l'agenda qui sont annulés, la mise à l'abri dans le bunker. Faut savoir que George Bush, pendant ce temps, est en Floride, ça on l'a vu partout. Un conseiller du vice-président Cheney reçoit très vite d'un ami ce commentaire « Aujourd'hui, c'est Pearl Harbor ». Puis viennent de l'extérieur les messages, prières, condoléances, solidarité, comme Javier Solana, l'espagnol, qui écrit à Condoleezza Rice. On se rend compte que jamais, pendant ces heures terribles, la Maison Blanche n'a été totalement coupée du monde extérieur. Mais en même temps, il y avait cette incertitude, est-ce que nous sommes à l'abri ici, en fin d'après-midi? Il est presque 18h, George Bush est en train de revenir à Washington, et un conseiller, Clay Johnson, envoie à sa sœur qui s'inquiète pour sa sécurité ce message. Si c'est suffisamment sûr pour le président, alors... Ça l'est aussi pour moi. La Maison-Blanche qui doit gérer le pire dans un état de fragilité personnelle de tous ceux qui y travaillent. C'est bien ça, Michael, qui ressort de ces emails.
Il n'y a pas que des mails, Frédéric. Dans le même registre, on a découvert il y a quelques semaines les photos personnelles de Dick Cheney.
Oui, du vice-président qui est véritablement aux commandes à Washington pendant ces longues heures que met George Bush pour revenir de Floride. La plupart du temps, on est dans le centre d'opérations d'urgence, censé pouvoir résister à une attaque nucléaire, et pas besoin de légende. Hein. L'expression des visages de Cheney, Rice, Colin Powell suffit à exprimer la gravité du moment. Et puis, il y a une photo qui résume à peu près tout. Là, on est en pleine nuit, les couples Bush et Cheney quittent la Maison Blanche. C'est une image crépusculaire qui raconte que le cauchemar vécu ce 11 septembre va marquer durablement le pays. Un dernier mot quand même, Michael. Vous l'aviez dit, tous ces documents, les mails, les photos ont été obtenus à la demande de la presse américaine au nom du droit à l'information. Bien sûr, ils ont été filtrés soigneusement. Aucune information sensible, rien de dérangeant pour l'administration Bush, sauf peut-être une photo où l'on voit Dick Cheney en train de bâiller. Mais après tout, dans des jours comme ça, la fatigue est humaine.
Frédéric Carbone, en direct de Washington, merci. Et en direct de Paris, je vous dis à lundi, Nicolas.